Un roi d'Espagne ou bien de France avait encore un croupier. C'était au pied gauche, je pense. Il boitait à faire pitié. Les gens de cour, espèce à droite, s'appliquèrent à l'imiter. Et qui de gauche, qui de droite, ils apprirent tous à boiter. On vit bientôt le bénéfice que cette mode rapportait. Et de l'antichambre à l'office, tout le monde boitait, boitait. Un jour, un seigneur de province, oubliant son nouveau métier, vint à passer devant le prince, fermé droit comme un peuplier. Tout le monde se met à rire, excepté le roi qui tout bas murmura, monsieur, qu'est-ce à dire? Je vois que vous ne boitez pas. Sire, quelle erreur est la vôtre? Je suis criblé de corvoyer. Si je marche plus droit qu'un autre, c'est que je boite des deux pieds. Sire, quelle erreur est la vôtre? Je suis criblé de corvoyer. Si je marche plus droit qu'un autre, c'est que je boite les deux pieds.
Et oui, courte chanson de Georges Brassens, bien sûr. C'est pas la plus connue. Il n'est pas dans tout le registre de ses albums recensés. C'est un texte de Gustave Nadeau. Au passage, Gustave Nadeau, qui était originaire de Roubaix et adopté parisien d'adoption, est celui qui a cofondé le premier caveau lyonnais après avoir participé à celui de Saint-Étienne. Et c'est là où tous les chansonniers furent bien contents de se produire. C'était en 1888. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Mais pourquoi cette chanson pour la 331e émission des Petits Tas dans le Mou sur Radio Canu, la plus belle des radios? Parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred de Jarry, nous sommes la Sainte Abbé Quille, patron des boiteux, l'abbé Quille. Et oui, mais en fait, pourquoi l'abbé Quille? Parce que selon le calendrier apostolique et romain, nous sommes aujourd'hui, vous n'êtes pas sans l'ignorer, la Sainte Ambroise. Et Ambroise, ça vous rappelle pas quelqu'un? Ambroise Paré, qui fut le premier à créer l'abbé Quille, puis ensuite la prothèse, voilà, en suivant son bon roi, en 1537, la première prothèse, après avoir créé la cautérisation, ce monsieur Ambroise Paré, qui avait commencé par être barbier, a compris comment cautériser les plaies quand il coupait un peu ses patients, et puis du coup, ben, on l'a embarqué dans les guerres, et voilà, donc les amputés de guerre ont eu le droit à une prothèse grâce à Ambroise Paré, et donc nous dirons que c'est l'abbé Quille. Donc aujourd'hui, nous allons vous engager pour une heure à mettre en valeur vos tares, c'est-à-dire à bien valoriser vos prothèses. Rubrique Alpha, monologue du couar. Vous qui faites cette mine défaite et triste, je ne doute pas que c'est à vous que je dois adresser la parole. C'est bien cela. Je cherchais des types comme vous, qui traînent leurs mentons comme des queues de casserole. Mon nom est Potiron. Potiron, tout simplement. Salut, Abono. Je ne me rends pas dans ton bar par hasard. Mon nom est ridicule. C'est tout à mon avantage, car en vrai, je suis un augure. Et je suis bien content de trouver Carlotta parmi vous. J'ai un air rachitique, ce qui convient encore mieux à ma fonction. Je suis un enfariné à vos yeux. Je suis garni du goudron du mauvais œil. Je tiens un rôle. Mais je me moque duquel, ni de quel côté je pense, ni de quel côté je penche. Je sais que vous êtes au courant pour votre copine Angèle. C'est une pute que je connais bien, sans être un intime. Je suis là pour vous dire que je connais d'autres choses, des choses qui ne peuvent que vous intéresser. Il y a un commissaire qui court après tous les clients de la pauvrette. Je pensais comme ça que ça pourrait bien vous titiller, si je peux m'exprimer ainsi, de savoir que genre ma personne était interpellée, et j'ai dit que c'était pas Dieu possible de se voir ainsi privé de la liberté d'aller et venir sous le prétexte qu'une fille avec qui vous avez été pour la chose s'est trouvée condamnée pour des idées qui, ma foi, ne regardent pas ses clients, vu qu'on venait nous autres juste pour une chose qui est loin d'être un crime, sinon on aurait depuis beau temps cueilli toutes les cocottes et à partir de ce postulat, dame, je crois bien qu'il y aurait plus ben de clients, pour sûr, et que donc on pouvait pas considérer les 10 clients comme coupables de monter avec une d'elles sans se préoccuper d'autre chose de ce que vous voyez. Voilà. Ah, je veux point vous préoccuper d'autre chose de ce que... Et puis je veux point vous empêcher d'aller. Mais c'est pour dire qu'on est ben d'accord et qu'il n'y a pas un potiron, comme est-ce que je m'appelle, dans vos rangs. C'est pas que vos idées soient mauvaises en tout, mesdames. Quand on a comme moi une famille et 5 marmots, on a d'autres soucis à se faire que d'aller se mettre en avant contre les autorités qui ont tous les pouvoirs et sans soutien de famille. Qu'est-ce que feront mes pauvres ptios? Aussi, je mène une vie bien tranquille, et si le commissaire venait à vous toucher un mot d'un nommé Potiron, comme est-ce que je m'appelle, vous pourrez dire que celui-là ferait point de mal à une mouche, et que dame, il avait ben le droit de fréquenter une fille comme Angèle, vu qu'il était au courant de rien, hein? Pas vrai? Ah, ça, voyez-vous, c'est du courage de votre part, d'épargner les soutiens de famille. Le peuple, il peut pas oublier quand on a fait un geste pour lui. C'est pas des actions placées au hasard de votre part. Et notez bien que c'est pas une allusion au Panama que je fais là. Parce que là, j'y comprends bien moins. Rien de rien, sûr. Et j'ai pas l'occasion de me préoccuper de ces choses, vu que ma femme et mes 5 loupiaux ont des estomacs, que c'est à moi de remplir par ma sueur. Et le respect de ce qui existe, pour avoir tout de même droit de dormir la nuit, déjà qu'elle est point longue, comme il faudrait. Et je crois bien qu'à cause de ce commissaire qui m'a donné du souci par-dessus le marché, il y en a quelques-unes qui vont se faire encore plus courtes de nuit, sans que j'en cause rien à la mère, parce qu'elle a bien d'autres soucis avec les 5 loupiaux et les dettes qu'on essaie d'éviter en remplissant nos mouchoirs de nœuds, afin de rester honnête malgré tous les soucis qui sont les soucis de tous les pauvres gens. J'ai point dit le contraire, notez-le bien. Et je vous accuse point d'être dans l'aisance, non sûr. Vous avez pas des têtes à bouffer de l'or au petit déjeuner. Autrement, je vous aurais jamais causé comme est-ce que je viens de le faire. Pour que vous compreniez bien de quoi qu'il retourne. Et c'est pas du tout me laver les mains, vu qu'elles ont jamais été sales autrement qu'au turbin. Ah, vous êtes pas de mauvais bougre, ça se voit de suite. Aussi, à présent, je me sens déjà mieux. Et je vous demande point de me répondre par l'affirmative, vu que déjà, je vous suis très obligé d'avoir écouté mes pauvres malheurs de citoyen ben ordinaire, d'ouvrier, quoi. Comme est-ce que vous comprenez ce mot? Merci. D'autre part, vous êtes des individus sans casquette, vous 7. Vous êtes des individus sans chapeau. J'ai pas besoin d'aller chercher sous les tables ce qui vous remue le cigare. Vous êtes resté là sur vos chaises à m'écouter, avec mes pensées toutes trouées. J'ai joué avec cette chaise vide pour faire pendant à mon ignorance et m'excuser de mes postillons. mais vous n'avez pas ouvert le parapluie, et je vous remercie encore. Carlotta, que voici, j'ai bien remarqué qu'elle a commis quelques hoquets pendant mon discours. J'étais pour un charme de rossignol, je ne dis pas le contraire, mais Mario, il a mieux compris mes pensées que je me dis dans ma tête, parce qu'il est resté parfaitement immobile au milieu de vous autres, les six. Et il ne m'a pas quitté des yeux, ce qui, par parenthèse, m'a légèrement impressionné. Ça a évité que le rossignol s'envole de branche en branche, si je puis m'exprimer ainsi. Un gars comme Mario, quand il se tait, on parle dans le silence. On est dans ton bistrot, n'est-ce pas, Abono ? Voilà que tu viens, moi. En camarade, j'espère. Ah non, tu vas commander une chope. Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'offres un ballon, Mario ? Ah, c'est vrai que j'ai la gorge sèche. Je suis pas habitué à m'expliquer en public. Tu m'offres un ballon ? Bah ça. Je suis comme qui dirait abasourdi. Voilà. Par politesse, je vais sortir mes poignes de mes poches. Ah. Oh, pardon, je les ai toutes inversées. Voyez comme elles sont vides, mes poches. Voilà que tombent des mèches de tabac. Oh, il y a même un mégot. Ah, dites donc, si vous avez besoin. Hein. Mais on va trinquer ou ben On va trinquer avec ce ballon. Pas de réponse. Rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel absolument bleuté de notre bonne ville de Lyon, et il y a forte chance de voir s'approcher des studios de Radio Canu la navette spéciale de Miss Cosmos et de Mister Milou. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Oh oui, on a améthéorité avec souplesse aujourd'hui, avec grâce à Mister Milouz qui dirige notre navette spéciale et moi-même, Miss Cosmos, qui l'accompagne et qui vient vous donner des nouvelles d'ici-bas, vues de là-haut au moyen de notre télescope. Et aujourd'hui, ça tombe bien. On voulait vous signaler qu'on vous trompe à propos des éléphants. Les Yankees n'ont rien contre la chasse à l'éléphant. C'est singulier. Il y a des parties de l'éléphant qui s'appellent trophées. Chez vos latins, trophée Pendulum était un arbre élagué, atrophié, sur lequel on suspendait les armes de l'ennemi vaincu. Et que fait d'autre le président du fragment Yankee, Mr. Minus? La préservation, c'est une attitude dépassée sur le météorite. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par préservation, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette? Les braconniers, il faut bien les préserver aussi. Sinon, ce sont les touristes qui prendront leur place sur les fragments Zimbabwe et Zambie. Ne barrissez pas avec les éléphants. Ceci dit, des éléphants, il n'en reste plus beaucoup à ce qu'on a vu de notre constellation des pénates depuis la dernière semaine hebdomadaire avec Mr. Milouz au moyen de notre télescope. Des centaines de zigouillés par jour, au niveau du cheptel. Les braconneurs de chez vous sont très doués. Ils ont adopté les drones et tout plein d'outils de surveillance dans la savane. Certes, il y a des zones interdites de chasse, mais peu leur chaud, comme vous dites par chez vous. Même un garde-chasse, ça se zigouille comme un éléphant. D'ailleurs, un garde-chasse est moins équipé qu'un braconneur, qui ne sévit qu'en bande. Ah, ce qu'on a vu de notre constellation des pénates depuis la dernière semaine hebdomadaire au moyen de notre télescope avec Mr. Milouz. Quel avenir pour les animaux sauvages du météorite, Mr. Milouz ? Pour profiter du spectacle, l'invasion de leur espace. Les animaux, ils sont faits pour que vous en profitiez, d'une façon ou d'une autre. Ils sont faits pour que les habitants du météorite gagnent leur vie. Alors, braconnage ou tourisme, il faut choisir. Trophée ou balade exotique? Trophée. Trophée, cela plaît aux Yankees. Une tête d'éléphant, des roubignoles d'éléphant, qui n'en rêvent, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Là où il en reste le plus de ces bestioles, c'est sur le fragment Zimbabwe. 83 000, à ce qu'a évalué notre télescope. Certaines zones sont protégées, d'autres non. En tout cas, ces mastodontes boivent toute l'eau disponible. Le droit des animaux qu'on veut bien, mais ces pachydermes ne respectent ni les récoltes, ni les maisons. Et sur le fragment Zimbabwe, la population humaine augmente considérablement. Et puis, ils sont tous pauvres. Ils ont faim. Il faut bien trouver une solution locale. La délivrance du permis de chasse est une solution. La moitié de ces permis concerne les Yankees. À ce qu'on a constaté de notre constellation des pénates au moyen de notre télescope depuis la dernière semaine hebdomadaire avec Mr. Milouz. De l'argent pour obtenir le droit de tuer. C'est singulier. Et cet argent, dans quelle poche?
proche va-t-il, Mr. Milhouse ?
Ce ne serait pas là le nœud du problème, la distribution. La répartition. Oh. Hein ? Nous, ce qu'on en dit, nous n'apercevons pas d'éléphants dans la constellation des Pénates. On a bien des olifants, mais ils ne font que de la musique. C'est peu rentable. C'est peu rentable, la musique. Enfin, un olifant, c'est moins rentable qu'un éléphant. C'est simple. Bon. Eh bien, en tout cas, nous, on va aller retrouver notre constellation des Pénates pour y jouer de l'olifant. Pan, 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 pan. Eh bien, on décomptera encore le nombre des éléphants de votre météorite une prochaine semaine hebdomadaire. Si tout se passe bien.
Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, ça trompe, ça trompe.
rage. Car il a oublié qu'il en faisait partie. Des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste, irrévolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier. La rage, c'est tout ce qui nous reste, passons tout ce qui nous reste. La rage, car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste, irrévolté. La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge mais de cris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. C'est toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. Inch'Allah. À la veille d'une révolution. J'allais spirituel. Arrête du peuple, arrête du peuple. Arabie, arabe, pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle suit la populace. Et la rage est énorme, est énorme, est énorme.
Explain.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus boiteuse des radios. Et oui, car aujourd'hui, sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou, nous fêtons l'abbé Quille. Oui, patron des boiteux, très précisément. Et nous vous engagerons pour encore une demi-heure à mettre en valeur vos tares. Parce que c'est pas parce que vous avez une prothèse que vous avez besoin d'être prothésé. Plus que ça, sinon par vous-même. Et surtout, essayez de mettre en valeur vos tares jusqu'à ce soir, minuit. Encore deux rubriques pour essayer de vous en convaincre. Rubrique Gamma, l'auteur caustique et l'homme vacant. Quand l'écrivain fait sa vilaine tête et qu'il se met à mépriser le monde entier, il ne blesse en réalité personne parce que ses lecteurs le jugent mieux que lui ne les juge. Il se croit malin et il s'adresse à un lecteur en particulier qui serait plus intelligent que la masse des autres. Seulement la masse des lecteurs a compris où il voulait en venir. Je ne parle pas dans le vide. J'évoque un certain type d'auteur à succès. Une minorité flattée au détriment du plus grand nombre. Or, il se trouve que tout lecteur est exceptionnel. Il n'a que faire du mépris de celui qui pond des œuvres caustiques. Comme on est tous exceptionnels, on est tous flattés de son mépris au grand homme supérieur. Je ne veux pas dire par cette rubrique boiteuse que le but d'un auteur est de flatter ses lecteurs. La littérature de la flatterie ne peut pas échapper aux préjugés qui fondent les certitudes les plus courantes. Je crois qu'on écrit pour aiguillonner, pour mettre précisément les préjugés en difficulté. C'est une sorte de retour sur soi que l'on souhaite, un regard un peu changé sur l'univers et les certitudes qui rassurent à propos de cet univers. Parfois, nous avons une opinion du voisin qui le transfère dans une conscience non aboutie. Je souhaite que les gens qui nourrissent cette tournure d'esprit ne prennent jamais la peine d'écrire quoi que ce soit à part signer les papiers essentiels qui les maintiennent en vie. D'ailleurs, une signature perd de son sens à force d'être apposée. C'est la difficulté avec la répétition, le ressassement. On signe sans s'en rendre compte, comme si, ainsi que cet auteur qui ne sait que maudire, on était devenu personne. Ce que le lecteur perçoit très bien. Un jour, j'ai été victime d'une inflammation des reins. C'est ainsi qu'on avait nommé les symptômes qui m'angoissaient. Étrange, ces mots qui concernent les éléments qui œuvrent sous ma peau. Des mots qui paraissent simples et pourtant... Rein, poumon, pancréas. Que font-ils tout au long de la journée ? Moi, j'ai l'impression d'être fait d'une seule matière, j'ai l'impression d'être un organisme tout simple. Mais quand je nourrissais mon grand-père à la petite cuillère, je m'apercevais que nous n'avions pas tout à fait les mêmes dents. Les siennes étaient plus allongées. À moi, le dentiste m'a dit un jour « Ça ne me plaît pas ce qui se passe dans votre bouche. » Ah bon ? Je n'avais pas de conflit avec mes dents. Par contre, si on m'évoque mes reins, mes poumons ou mon pancréas, je n'arrive pas à me les représenter. Je ne vois pas vraiment à quoi ils sont utiles, chacun de leur côté. Lorsque le médecin les cite, alors ils se mettent à exister. Ils rentrent dans une temporalité et je les vois se détraquer. Parce qu'il y a des médicaments à ingérer. Les gélules du grand-père. De quoi ? Contre les sautes d'humeur ? Ça dépasse l'entendement. Des injections, des régimes. Ces mystères de la consommation m'apparaissent, du moins n'apparaissent qu'avec l'âge. Il parle d'un tel qui aurait des soucis avec son foie. Des choses déconseillées à cause du diabète pour une obscure tante. Et alors, si l'on en croit l'auteur caustique, ces choses nous viendront aussi où nous sont déjà advenus sans qu'on le sache. Mon ami, on va s'occuper de cette inflammation du rein, s'il n'est pas trop tard. Car il peut aussi être trop tard. L'étymologie d'enfance, c'est « celui qui ne parle pas ». Infants. Donc le langage humain le prend tout de suite en otage, d'abord par l'intermédiaire de la mère, qu'elle insinue en lui par ses intonations. L'enfant est assiégé dès sa conception. L'enfant est un prisonnier de la voix en premier lieu. Il se met à bouger en fonction de ses vocalises. Lui, qui sort du monde de l'ombre et du silence, se doit de devenir sujet, sujet dans sa langue maternelle et bientôt sous le regard de tous. Nous sommes issus de ces impressions diffuses, comme le disait David Hume. Ces impressions qui se poursuivent et se répètent tout le long de la vie. C'est ce qu'on appelle le moi, dans toutes les philosophies. Citez-moi pourtant une seule impression constante et invariable. Douleur, plaisir, chagrin, joie, passion, sensations diverses ne font que se succéder chaque jour. Mais ces impressions n'apparaissent jamais toutes en même temps. Le moi n'est issu d'aucune impression en particulier. D'abord, une impression n'est pas une idée, alors que le moi, si. Maintenant, lorsque c'est possible, on est ravi d'échapper aux responsabilités. L'exemple type, c'est le touriste. Il oublie les erreurs et les échecs pendant ce temps de vacances. Il glisse et se complaît aux langues, il s'abandonne au dépaysement. Nul besoin de réflexion solide. Je vais faire l'auteur caustique à mon tour. Le tourisme est la bêtise en marche. Tous ceux qui vivent du tourisme s'attendent à ce que vous soyez bêtes durant cette période. Le pays d'accueil mise sur la stupidité du voyageur. Voyez-le circuler dans un état d'hébétude, les yeux rivés sur des cartes pliantes illisibles ou sur des tablettes qui les induisent en erreur systématiquement. Quand on veut demander un renseignement, on dit tout à l'envers. On ne connaît plus le prix réel des choses. À peine nous reste-t-il une notion de l'heure qu'il est. 13h43, ma bonne dame. Bon, en tout cas, on a faim. Mais comment manger? Et où? La bêtise est la norme du tourisme. Cela peut durer des semaines, des mois, sans que personne ne vous en tienne rigueur. Et puis, les conséquences sont bénignes. Vous observez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de gens errent comme vous. Des centaines de gens vous sourient aimablement à la chaleur de votre carte bleue. Ouais, c'est la liberté, avec un grand L. Je m'extasie sur ces armées d'imbéciles vêtus de polyester voyants qui font la queue pour chevaucher un chameau ou chameler un cheval. Tout ça, ce n'est pas pour la balade, mais pour la photo. Chacun à son tour sur la bestiole. Sur la photo, le regard est hagard. Mais on ne s'en rendra compte qu'au retour. Les événements de cette période de liberté ne sortent pas de l'informe. Que l'on s'étonne ensuite qu'il y ait des auteurs caustiques qui nous prennent pour ce que nous sommes lorsque nous sommes vacants. Et voici venir notre ultime rubrique. Celle que les adolescents appellent « À quand ma première muage ?» Tu l'as vu, Mère Durand ? Hé, Mère Durand, c'est l'aîné des garçons qui assure les arrières chez les Dagobert. Il a trimballé cette bouteille de Père Julien dans son cartable pour compenser les négligences de ses parents. Vise un peu l'étiquette. Il n'y a même pas de date de cuvée. Crois-tu que ce garnement a voulu nous délivrer un message ? Je vais l'ouvrir, dit résolument Madame Durand. À la guerre comme à la guerre. Gamin, prends ton verre. L'aîné se réjouit qu'on le prenne enfin pour ce qu'il est. L'aîné. Son père fait les 100 pas dans le salon en attendant le retour des toilettes de sa femme et de son puits-né. Il répond cependant pour moitié à cette proposition. Il ne boit pas, qu'est-ce qu'elle peut bien foutre ? Mais la dame Durand lui réplique : c'est un homme, ce soir il boira. Le mari lui glisse à l'oreille : tu pousses un peu le bouchon. Depuis quand ne m'avais-tu pas bavé dans l'oreille ? Tu sais bien que ces cochonneries portent des bouchons en plastique qu'on ne risque pas d'enfoncer. Oh, oui, tu veux un baiser pour la peine. C'est alors qu'on entend, assourdi par la distance, « Tu ne dépasseras pas les 7 sur 10 si tu persistes dans cette attitude perturbatrice. Qu'est-ce que tu as à me suivre partout ? Heureusement qu'il n'y a pas de serrure pour voir à l'intérieur. Tu tiens de plus en plus de ton père. Souviens-toi qu'il n'a pas fini ses études, lui. Tu vois où ça nous mène ? Tu veux ma mort ou quoi ? Il veut ma mort, ce gamin. » Et une petite voix aiguë qui répond
« Tu ne connais rien à la vie. »
Ah, oh, la voilà ! Exulte le mari en regardant la tablée avec dans le cristallin une tendresse à faire fondre une motte de beurre. La femme, qui tient à recevoir pour ne pas se voir, Madame Durand, est victime, une seconde, d'une sensation bizarre d'être une motte de beurre dans un carré de lumière. Pendant ce temps, l'aîné avale, puis brise le pied du verre en le reposant sur la table et dit à sa mère, dès son retour des toilettes, je vais essayer d'imiter, car il ne maîtrise pas sa voix.
Et je suis l'aîné.
Femme qui n'a pas peur de sa peur, Alix Dagobert, traîne derrière elle le petit, qui, selon toute apparence, commence à comprendre quelque chose à la vie. Mais Madame Dagobert est stoppée par son mari, planté sur sa trajectoire. Ce mari a quelque chose de flétri dans l'expression. Elle a la révélation qu'il s'engage sur la voie de la dysenterie. Comme d'autre part il est défaitiste, il commente. Tu as été bien longue. Ton fils a eu le temps de sortir de son cartable un père Julien sans date de cuvée. La mère Durand a fait sauter le bouchon en plastique. Le père Durand a voulu l'embrasser après lui avoir bavé dans l'oreille. Elle a servi du gros rouge à ton fils. Ton fils a bu. Il a cassé le verre et te voilà. Il était plus que temps. Je ne comprends rien aux générations nouvelles. J'ai essayé de l'imiter, mais le ton est celui d'une homélie. Je ne serais pas étonné qu'il soit en train de répéter des mots que quelqu'un lui souffle dans l'oreille et qu'il les ressortisse sans leur représenter de sens.
C'est l'aîné !
S'exclame soudain le puits-né éclairé. Il se dégage de sa mère et court à la table.
C'est l'aîné ! Il donne l'exemple ! Je le prends !
Le voilà qui rampe vers l'horrible boisson. Monsieur Durand est pris sur le champ d'une compassion sans limite. Il subtilise la bouteille. On tolère une fois les excès, profère-t-il. À chacun d'inventer sa profanation, petit. Sur le coup, le petit garçon reste quoi ?
Tu ne connaîtras pas la vie,
bégaye l'aîné ivre.
Inventer ?
Cogite le frère.
Mais... c'est quoi une truc-nation ?
À cette question, son père redevient plus calme. Et la femme ? Je veux dire celle qui n'a pas peur de sa peur. Bon sang, Milouz ! Reste-t-elle neutre, à la fin, devant la déconfiture de son foyer ? Merde alors ! Par une complexion particulière aux craintifs, elle accorde foi aux institutions institutionnelles. Aussi, l'initiative de son aîné, par son caractère extraordinaire, la remplit-elle d'espoir. Elle a déjà acquis la conviction que la cure de désintoxication videra son fils de sa suffisance et le disposera à rentrer dans la norme qu'elle n'a pas su inculquer toute seule. Quant au sort du petit, elle s'est fait une raison ce soir. Elle s'est fait une raison, sans plus, c'est-à-dire sans raison. Son mari ? Il ne boit pas suffisamment pour l'inquiéter au sujet du retour à la maison dans l'automobile. Quant à la dysenterie, elle aura bien le temps de se faire du souci une fois veuve. Bref, la soirée suit son cours dans la plus grande fraternité.
Le camarade va nous taper dans l'œil. Vous êtes comme moi sans doute, avant de nous embarquer, je casserai bien une côte en buvant un mistier. Pas encore un petit verre de vin pour nous mettre en route. Pas encore un petit verre de vin pour nous mettre en train. Ceux qui voudront s'en aller s'en iront. Ceux qui voudront rester, resteront. Ceux qui voudront s'en aller, s'en iront. Ceux qui voudront rester, resteront. Mon vieux propriétaire est le modèle du quartier. Jamais de ses locataires, il n'augmente le loyer. Le dimanche, il nous mène toucher le marchand de vin et chante à perdre la laine avec nous ce refrain. Encore un petit verre. Ceux qui voudront rester, resteront. Encore un petit verre de vin pour nous
Raymond Souplex. Encore un petit verre de vin. Ceci, c'est pour conclure notre émission Les Petits Tas dans le Mou. L'abbé Quille vous propose jusqu'à ce soir de réfléchir à vos tares et aux moyens de les mettre en valeur. Il y a toujours moyen. Vous avez jusqu'à ce soir minuit, chères auditrices et chers auditeurs. Nous allons vous laisser incessamment sous peu avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, concoctée par un certain nombre des animateurs de cette radio éclectique et néanmoins belle. Ce jusqu'à 17h, où vous retrouverez l'émission intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises, cul par-dessus tête. À 18h, c'est l'émission Grain de Sable, l'émission d'attaque, où on repassera en revue un petit peu les conséquences de la nouvelle loi travail. Vous remarquerez que sur les médias traditionnels, on n'en parle plus beaucoup, tout à coup. Et ensuite, à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Pour ce qui nous concerne, si tout se passe bien, nous nous retrouverons le 14, la semaine prochaine à 13h, où, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, nous serons la Sainte Profonde. Profonde, c'est la patronne des troglodytes. Mettez en valeur vos tares. Eric Satie savait très bien le faire.